soyez les bienvenus avec Leïla Guérin-Montbéliard. Morgane, c'est toi avec une...
En spectacle demain.
Avec une gourde jaune incroyable. Trop chic. Monsieur Jérémy Kévin, Alexis Rossignol, Tanguy Bastureau, Daniel Morin,
bonjour,
notre invité Amanda Sterz. Alors, nous allons évoquer le roman d'Amanda, le 16e roman d'Amanda.
16e.
Incroyable.
J'ai
l'impression que c'est une gamine. Le 16e roman d'Amanda, Le Café Suspendu. Ce roman est publié chez Grasset. On va en parler avec elle. Ce roman se déroule à Naples. Donc forcément...
Oui. Ça n'a rien à voir avec Naples.
Waouh, Daniel.
Oui.
Rosso Lemi.
Ah ouais.
Bravo.
Signé Pavarotti. Ah. Juste sur ça, t'as reconnu ce
nom. Là, là.
Ah oui.
C'est fort.
J'aurais mis arrête.
Pardon.
Suspendu, suspenso.
Suspendu.
Suspenso.
Suspenso.
Le
On l'a pourri ou pas, la Pavarotti and Friends?
Pourtant, c'est ma spécialité de pourrir.
Il paraît qu'il était odieux, en fait.
Ah ouais?
Non.
Qui ça?
Pavarotti.
On l'appelait le connard, il paraît.
Il était odieux.
Le gros. Il était pas sympa.
Le gros Smando.
Ah, ouais, qui chante ça?
Daniel, ouais. Paolo Conte.
It's wonderful. It's wonderful. C'est bien de faire partie de la mafia iconique.
C'est ça.
Je vais attendre.
Depuis 8 ans que je connais Nagui, je peux te dire.
Sans blaguer, ça c'est pas la classe.
C'est génial. Chips.
Ça fait craquer Morgane, ça.
Ouais. Complètement.
Il y a un mec qui te fait ça au
plus registre. Que les Italiens font très bien, c'est celui-là.
Non.
Si.
Pavarotti, tout nul, qui te chante ça.
Attends, j'ai posé une question. Justement, un mec qui te chante au piano, tu craques, elle me fait...
Non, ça dépend du mec.
C'est un peu crooner, quoi. Je sais pas si je trouve ça
aussi nonchalant.
Il y a un côté nonchalant et festif à la fois.
Je sais pas si on peut être deux nonchalants.
Non, mais s'il fait à manger, d'accord.
En même temps, au piano.
J'adore, moi je veux un mec rigoureux. On ne peut pas être deux mecs nonchalants en même temps. Attention, enfin deux personnes.
Daniel.
Morgan.
Oui.
Non, Daniel.
Sarah Bercassiamo, Richie Poveri.
Oh là là.
Festival.
Jérémy Amanda. Et là, une fille te chante ça, tu crains quoi?
Oui.
Voilà. Je savais que j'y arriverais. Mais il faut pas qu'il soit nonchalant.
Il n'y a pas de nonchalance, là.
Qui chante
Jérémy? Laura Poutini. Je tente un truc.
Non. Ah, mais oui.
Ah, je reconnais la trompette. C'est un synthé.
Attends, tout d'abord. Ouais, c'est un gazebo. Un gazou.
Ah, bon.
Mais oui.
Ah, c'est sur le tour. C'est sous le soleil?
Non, solo tout, pas sous le soleil.
Ah.
Solo tout, c'est le titre.
Ouais.
Et j'ai un point.
J'ai un point.
Bah, t'as un point.
J'aime bien.
J'ai dit solo tout.
Il a dit solo tout?
Bah,
j'ai bien entendu.
Bon,
je suis pas une bagnole.
Tu te vois, cheveux
en blanc? Oui, exactement. C'était ça le geste, ouais.
Voyage en Italie?
Si
t'as dit sur le tout, t'as le point. C'est Mattia Bazar, donc un point pour Jérémy. Mattia Bazar.
Oui. J'adore cette chanson d'Arita.
Ah, ça c'est la même.
Morgane.
Oui.
Stand by me. Stando bene.
Oui, oui, alors oui, Stand by me en italien s'appelle Preghero, mais qui chante? Non, mais je vais t'accorder.
Mary King.
Los Beatles. Preghero. Oh. Ah, c'est Kenji. Kenji.
Oh, la
c'est Kenji.
C'est bien cette version.
Il y a un truc, hein.
Tu connais pas Adriano Celentano.
Oh. Crederai.
Là, écoute.
Crederai, la gare. Io lo so
perché. Ah, c'est doux.
Un mec qui fait ça au piano, je m'en vais quand même.
J'étais triangle sur cette chanson. Ah.
Ensuite, une tournure
dramatique.
Sous un balcon, quoi.
Celentano, c'est celui. Écoute, il avait fait Breeze and Gold, il est sur la Accuse. On travaille pas sur lui.
Non
plus. Ok, d'accord, j'insiste pas. Qui chante ça?
Waouh.
Oh, oui.
Mais c'est en italien.
Oui.
Eros Ramazzotti?
Non. D'où il a fait ça?
J'en sais rien, je sens des trucs.
Will Smith.
Will Smith.
Will Smith.
Louis. Écoute,
cercata in discoteca con lo sguardo da serpente.
Non so, mi sono avvicinato.
C'est pas Pavarotti il matin.
Non capiva niente.
No, le soir, c'est
pas. Un mec vient de chanter.
Tu cours. Là, oui.
Il n'y a pas la classe.
Moi, un mec, il veut chanter. Ça, j'y vais.
Non. Lui, il s'appelle. Che idea.
Sergio
Pino D'Angio.
Pino D'Angio.
Pino D'Angio. Que l'on pourrait traduire par.
Pino D'Angé.
Pino Péric Toulouse.
Les anges n'ont pas de texte.
Bah, lui, si.
Il chante avec, même.
Ah non, c'est bizarre. Je pensais que vous connaissiez. Ok,
mais alors. Si, mais.
Alors, attention, tout va se jouer là-dessus. Ah. Pour l'instant, il y a un point pour Morgane. Un point pour. Non, un point pour Jérémy.
J'en ai un.
Deux pour. Trois pour Daniel. Tout se joue.
Sur. Oh, si, Zucchero.
Ouais. Okay. Lui, là.
Ok.
Hey
Zucchero. Zucchero.
Le sucre.
Le sucre.
Il n'y avait même pas Tozzi, Patti Pravo, tout ça, quoi.
Qui ?
C'est qui, Patti Pravo ?
Patti Pravo ! Oh, c'est une des plus grandes chanteuses italiennes.
C'est vrai ?
La Bambola.
Ah,
tu
oui.
Connais cette chanson ? Est-ce qu'on peut chercher la Bambola Pitié ?
La Bambola Pitié ?
La Bambola Pitié, c'est une version.
C'est une des plus belles chansons.
Victoire de Daniel Morin. Et merci d'accueillir Amanda Ster.
France Inter, la bande originale.
Grâce à vous, nous sommes partis donc pour l'Italie sur ce blind test, histoire de faire un clin d'œil à l'Italie. Mais vous, c'est Naples en particulier, ce café suspendu, alors que je connaissais déjà, je ne savais pas que ça venait d'Italie, le café suspendu.
Oui, le café suspeso, c'est né à Naples. Il y en a quelques-uns en France, mais à Naples, c'est systématique, c'est dans tous les cafés.
Alors, on rentre dans un café, on est dans un café, on consomme, et on paye un café en plus que l'on ne consommera pas, qui lui s'inscrit sur une ardoise pour celui ou celle qui n'a pas les moyens de s'offrir un café. Et d'ailleurs, on découvre dans le livre que certains ont les moyens, mais n'ont pas l'argent sur eux, ou n'ont pas le moyen de payer immédiatement, et profitent
de ce café. Oui, ça m'arrive, bon alors. Et
alors 12 par jour.
Oui, mais à la base, c'est vraiment fait pour créer du lien social, pour que les gens qui ont pas les moyens puissent quand même rentrer dans un café, parler aux autres et rencontrer des gens, croiser des regards, être dans la vie. Donc c'est un tout petit geste, mais hyper important.
Alors justement, tout est basé sur. D'ailleurs, c'est le lien entre tous vos personnages. Il y a cette histoire racontée par un auteur ou un dessinateur, Jacques Madelin. Je ne sais pas trop s'il fait des croquis ou s'il écrit. En tout cas, il est lui logé chez Marcello, qui est le patron de ce bar.
Maurizio
ou Marcello, je ne sais plus.
Maurizio,
non,
merci. C'est pas grave.
Non, c'est vraiment, j'avais que une lettre. C'est
oui,
appelle le Bob, tu
vois. Chez le patron. Bon, il est chez le patron. Pile au-dessus avec pignon sur rue, mais surtout, il a la vue et il a l'oreille qui se prête à toutes les histoires qui vont se dérouler. Lui installé au fond de la banquette, toutes les histoires qui vont se dérouler dans ce café. Il est français, il est venu pour une histoire d'amour et il y est resté plus par désespoir qu'autre chose après un dramatique tremblement de terre. Et ce café suspendu qui est la main tendue, la générosité et la transmission et la passation, c'est exactement ce qui va se passer avec toutes ces histoires. Ce sont des histoires d'amour et qui sont toutes pratiquement dans la transmission.
Ce sont des histoires solaires, oui. Je voulais un livre qui fasse du bien après ce que vous venez de vivre. Et il y avait aussi un petit symbole avec ce qu'on a dû faire pendant le Covid, c'est-à-dire que quand on a mis un masque, on mettait un masque pour protéger un voisin imaginaire en fait. On se protégeait les uns les autres et on a compris qu'on était tous liés. Qu'il n'y avait pas de classe sociale quand il y a une maladie, quand il y a besoin des uns des autres, il y a une union profonde, il y a quelque chose de très humain.
Il y a une classe sociale dans les soins qui arrive
dans
derrière,
les conditions de confinement.
C'est ça, voilà. Et en l'occurrence, même le moindre petit bout de balcon a son importance, les échanges se faisant par envoi d'avions
en papier,
pas toujours réussi pour l'atterrissage, mais de mieux en mieux. Ce qu'on cherche évidemment toujours, c'est où se trouve l'auteur dans cette histoire, parce que il y a des petits bouts d'Amanda Sterz un peu dans chaque personnage. Déjà, vous aimez l'étranger, vous aimez voyager, vous aimez être ailleurs.
Il y a en tout cas une vraie partie de ce qui m'émeut. Et c'est vrai que quand j'ai appris, j'ai entendu parler de cette tradition, j'étais vraiment émue. Je me suis dit, c'est vraiment quelque chose de très joli qu'on devrait reproduire. En France, en fait, il y a des baguettes suspendues. Il y a des boulangeries qui commencent à faire ça.
Mais je suis sûr qu'il y a des cafés suspendus.
Oui, je sais, on m'a écrit, il y en a quelques-uns. Ouais. Mais c'est vrai qu'à Paris, par exemple, où je vais souvent dans des cafés, j'en ai jamais vu.
On peut demander aussi clairement au café, dire voilà, j'en paye un, et quand vous voyez quelqu'un qui a besoin.
Oui, mais le coût de l'ardoise. Non, mais déjà, et le coût de l'ardoise est de savoir qu'il y a une espèce de crédit, entre guillemets, pour consommer un café en cas de besoin. En tout cas, ça serait intéressant.
Il y a des baguettes suspendues.
Oui, il y a quelques boulangers qui font ça.
Il y a des jardins suspendus.
Il y a des romans suspendus comme celui d'Amanda. C'est ce que vous voulez faire aussi, vous, dans cette idée de poser un livre et de le transmettre finalement à celui qui n'a pas les...
Alors on va lancer une bibliothèque solidaire à Marseille en juin. Donc là, c'est encore à l'état de balbutiement, mais il y a vraiment cette envie de partager, et de partager les livres aussi, c'est important.
Alexis,
il y a les boîtes à livres maintenant qui sont à la mode, qui ressemblent un petit peu à ça. Oui. C'est super d'ailleurs.
C'est vrai que c'est rarement des livres qui sont contemporains ou du moment. Non, c'est pas le livre du moment.
Il y a systématiquement Henri Troyat, Guy Descartes, des auteurs dont on ne sait pas ce qu'il y a. C'est incroyable.
Pour en revenir à votre roman, Le Café Suspendu, ces personnages, vous leur trouvez un point commun, à part évidemment cette idée de café suspendu qui apparaît dans chacune des histoires. Il y a des intermèdes ou des interludes qui interviennent aussi dans le roman. Mais comment vous avez dessiné votre galerie de portraits ?
Déjà, ce sont que des personnages très hauts en couleur. Ce que m'autorisait Naples, il y a un truc très... si on doit le comparer à la France, je pense qu'il y a un truc très pagnolesque, des personnages...
Exubérants.
À la
même
limite
sur
de la...
Le médecin est dans la réserve, il est plus
oui,
timide.
Oui,
hein,
mais c'est toujours à la limite de la caricature. Il fallait trouver le bon équilibre, mais c'est vrai que... Comme mon narrateur, comme vous le disiez tout à l'heure, est caricaturiste sur la place derrière, il travaille le soir et c'est pour ça que la journée, il traîne au café. Et sa façon d'écrire, c'est un peu voilà, comment en quelques mots, on va croquer quelqu'un et on a tout de suite l'impression de le connaître. Et il y a sept histoires. Dans ces sept histoires, il y a des personnages qui vont être au premier plan parfois. Et ensuite, ils vont passer au second plan, et c'est si, au fur et à mesure de la lecture du livre, on devenait un habitué du café. Qu'on rentrait, qu'on en voyait certains, d'autres, et on s'attarde sur une histoire et pas sur l'autre, selon le moment de...
Et ce ne sont pas que des histoires d'amour. Ce sont aussi des histoires d'amitié, aussi d'acceptation. Il y a cette notion
d'amour de soi.
De voyage, d'immigré. Accepté et toléré.
Faire partie d'un tout, faire partie du monde, comment on est, comment on est accepté, comment on arrive à non seulement tendre la main, puisqu'il y a ça, donner un café, mais il y a aussi une chose dont on parle moins souvent, et c'est très dur de recevoir. Recevoir, c'est une chose, je veux dire, même pour les gens qui ont des moyens, il y a plein de gens qui ont la générosité de ne pas recevoir. Mais moi, j'ai mis beaucoup de temps à apprendre à recevoir, parce que recevoir, c'est accepter de laisser partir une part de soi, d'enlever, faire tomber ses défenses. Il faut de l'humilité pour être capable de recevoir, il faut du temps, il ne faut pas avoir peur. Et donc, il y a aussi ce temps-là, cette acceptation-là, elle fait partie du récit. Les gens qui doivent apprendre ça.
Et puis, il y a des histoires d'amour pas très heureuses, voire violentes par moment. Là aussi, il y a tous les cas de figure possibles et imaginables. Beaucoup du point de vue de la femme.
Alors... c'est logique pour moi, mais...
Peut-être pas pour Jacques Madelin, parce que c'est le narrateur, mais en tout cas,
En fait, Jacques, il a cette chose de... C'est comme un ange, il vient et il essaye, avec un tout petit geste, une toute petite chose, de faire basculer les vies. Même les histoires tristes, elles vont vers la lumière dans ce livre. J'avais cette envie-là. Mais évidemment, ça peut pas être nié. Il y a des voilà, la vie, c'est aussi des choses difficiles. Mais il y a vraiment cette envie de comment on pense qu'on va toucher le fond, et en fait, il faut toucher le fond pour arriver à quelque chose de plus joyeux.
On est dans un roman qui comme s'il portait des légendes avec un peu de morale, des enseignements en tout cas pour un enrichissement humain. C'est ce que vous cherchez à passer, à faire passer, que ces expériences-là servent soit de leçons, de fables, voire de peut-être pas de morale. C'est peut-être aller un peu loin, mais
comme payer la maîtresse de son mari pour qu'elle disparaisse. Moi, je trouvais que c'est une méthode. Je sais pas s'il vaut ce prix-là. Elle demande au moins 4 millions de livres, de lire.
Ouais.
Mais c'est la négociation après. C'est le principe qui est intéressant.
Oui, c'est ça.
Ouais, le principe me faisait beaucoup rire. Je trouvais, ouais. Moi, j'ai pas pu le faire, ça m'aurait coûté beaucoup trop cher.
Une mais
visiblement, ça s'est produit. Donc.
Mais c'est vrai que.
C'est vrai finalement, que... est-ce que ça vaut pas le coup plutôt de garder l'argent et de partir avec un
petit
jeune?
Oui, d'ailleurs, elle se pose
Sylvia.
La question. À un moment, elle se dit, bah, après tout, peut-être que.
Mais il y a les enfants.
Voilà, elle fait ça pour les enfants. Elle fait ça pour. Non, et puis elle s'y est attachée. Et on se rend compte qu'après.
Ça, c'est pas un chien.
C'est un compagnon de vie,
voilà. Et
En tout cas, il est chien parce qu'il la trompe quand même.
Et puis c'est son amour de jeunesse, c'est-à-dire que j'explique comment ils se sont rencontrés, comment et en fait ça relance presque leur histoire d'amour, ça relance son désir, l'idée que elle va le perdre d'un coup, elle est prête à tout pour y arriver.
Le Café Suspendu, le nouveau roman signé Amanda Ster chez Grasset. On va continuer évidemment d'en parler jusqu'à midi et demi, mais d'abord, nous on est ravis de vous accueillir, mais c'est pas le cas de Morgane. Elle ne vous aime pas, Morgane. Elle aime personne. Ça mange.
Je ne se lasse pas.
Santé.
Amanda Ster, je vous aime pas, parce que tout simplement c'est mon boulot. Hein. Puis c'est devenu un hobby, puis une passion. Maintenant je le fais avec plaisir. Et je fais pareil avec mes proches, vraiment à cause de cette émission. Je paye mon loyer, certes, mais je ne sais plus aimer. La dernière fois, quelqu'un m'a dit, mais tu sais, je t'aime beaucoup. J'ai répondu, ah là là, désolé, j'ai pas de monnaie, quoi. Donc Amanda, le principe du Café Suspendu, c'est cette idée de prépayer un café ou une boisson chaude ou une consommation pour quelqu'un de passage dans le besoin qui ne pourrait pas se l'offrir. Et c'est vrai, on en a parlé effectivement en France il y a quelques années et ça a pas trop pris. Déjà parce que faudrait qu'on paye déjà ce qu'on a consommé nous avant et surtout parce que je suis sûre qu'ici ça serait le bordel parce que ce genre de concept, ça repose sur la bonne foi. Et si c'est écrit 10 cafés suspendus devant un bistrot à Paris, tu vas avoir 10 Daniel Morin déguisés qui vont aller choper un café gratuit. En tournée, j'ai déjà vu cet homme porter plainte contre un resto parce qu'il y avait pas de petit spéculoos à côté de la tasse. C'est et il faux. A gagné. Moi, j'aimerais bien qu'on applique le principe du café suspendu à plein de trucs, genre une discussion suspendue. Sur l'ardoise devant, c'est indiqué qu'un débat d'1h30 sur le fait qu'il n'y a plus de gauche ou de droite vous attend à l'intérieur. Après, t'y vas ou t'y vas pas, mais dans une journée où t'es un peu vénère, où t'as un peu besoin de taper du poing sur la table, bah c'est super. Ou une rupture suspendue. Au comptoir, si tu veux, tu peux larguer quelqu'un pour t'entraîner. Non mais comme ça, quand t'arrives à la vraie rupture, tu te dégonfles pas comme ça arrive beaucoup trop souvent. Moi, j'ai été témoin de manque de courage flagrant au moment de quitter quelqu'un. Et par témoin, j'entends au mariage des gens. Donc entraînez-vous. Les cafés, c'est aussi plein de destins. J'adore les cafés, c'est plein de destins qui se croisent. Et c'est vrai que c'est chouette à observer quand tu t'installes dans un café, dans un bar. C'est un peu le cas du narrateur de votre livre, Amanda, et je le comprends. Quoi de plus passionnant que d'écouter la conversation de la table de la table d'à côté quand les gens cherchent le nom d'un film sans s'en rappeler. Et toi, tu le sais, mais tu peux rien dire. Sinon, ça se voit que t'as écouté. Et il devrait utiliser ça pour torturer les gens. Quelqu'un qui parle d'un film en disant qu'il l'a sur le bout de la langue et t'as pas le droit de le dire alors que toi tu sais. Mais quelle souffrance. Mais sur moi ça marche mieux que la noyade en cas de torture, quoi. Quoique, j'adore le ciné, l'apnée, tu me fais deviner le grand bleu au Time's Up, je jouis un peu. Bah, quoi qu'on a pas le droit de mimer. Donc, dans un café, j'adore aussi deviner qui est en rendez-vous Tinder à Paris. En général, tu le sais quand t'attrapes des phrases au vol. Genre, et après 2 ans en Bolivie, j'ai renoué avec le monde de la tech et ouvert une start-up de gourdes connectées dans une rue piétonne du 11e. Parce que je suis originale. Et là, la meuf reçoit un coup de fil. Allô, Leïla? Quoi? Comment? Un aigle a volé le bébé? Faut que je te laisse. C'est ma sœur. Apparemment, il y a un problème à son pique-nique. Le nourrisson un peu rouge. Il y a un rapace qui l'a pris pour une tomate cerise. On s'appelle. Salut, Boris. Benjamin. Peu importe. Bonne gourde. Bisous. En tout cas, à l'inverse d'un rendez-vous raté, Amanda Sters, moi, je suis restée suspendue à vos mots pendant tout ce roman. Alors, félicitations et bonne émission.
Merci. Morgane qui sera demain, vendredi et samedi, à la Royal Factory de Versailles.
Royal Factory de Versailles.
Rien que ça. Il faut venir habillé.
Oui, toujours habillé.
Pour une fois, oui, habille-toi.
Oui, mais quelque chose.
C'est vrai que généralement, aux soirées de Morgane, on n'est pas obligé.
Oui, je comprends.
Attends, je suis quand même le coup de fil. Coup de fil de sauve-moi du plan Tinder, quand même.
Le café suspendu, Amanda Sters. Il y a une part aussi, tu voulais dire, pardon?
Ouais, dans le café suspendu, vous parlez de l'auteur. C'est quoi être un auteur? C'est être hanté. C'est se libérer. En tout cas, écrire sur Naples, c'est recommencer une nouvelle vie. Et je me suis demandé si ces pages-là ne vous concernaient pas.
En tout cas, je pense sincèrement que les auteurs sont hantés. Et quand je dis hantés, c'est qu'on hérite de tous les silences familiaux, dans son ADN. Et je pense que notre rôle, c'est de mettre des mots sur ces silences. Et qu'il y a, chez un écrivain, c'est tous ces personnages qu'on trimballe avec nous. Et on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Quand on parle de l'inspiration, il y a quelque chose d'un peu mystérieux. Je pense que c'est en nous, c'est inscrit en nous.
Alors c'est mystérieux et c'est mystique aussi par moments, ouais, dans le roman. Il y a beaucoup de présences et de situations qui viennent de l'au-delà ou de superstitions.
De fantômes.
Mmh. Oui, il y a tous les fantômes de Naples, toutes les traditions. Je voulais un côté un peu sur certaines histoires un peu surnaturelles. Mmh. Il y a un côté un peu Edgar Allan Poe, mmh, qui était des choses que j'adorais quand j'étais jeune, et j'avais cette envie qu'on soit toujours à la limite du surnaturel, c'est-à-dire que les choses sont plausibles, tout peut exister, mais il y a comme une aide du destin et on ne sait jamais si c'est divin, si c'est...
Oui, il y a des malédictions aussi, ouais. Enfin le foulard, il est...
Oui, alors ça c'est un peu plus de la psychanalyse, je pense que c'est presque des objets de transfert, c'est des objets qui vont permettre, et c'est à l'instar du café, ce symbole de la tasse qu'on passe, le sac en crocodile, le foulard, il y a plusieurs objets transitoires dans ce...
Et ils sont eux-mêmes possédés, ouais, en tout cas.
Au possédés du symbole de l'âme de quelqu'un. Et je pousse un peu, ouais, les choses.
Et le café, c'est quand même associé à un art divinatoire, de toute façon. Mm-hmm. Le marc de café, l'avenir, il y a une voyante qui intervient à un moment. On est aussi dans cet autre monde, en fait, avec le café.
Parce que j'ai toujours pensé que plus on allait vers des choses étranges, plus les gens se reconnaissaient. Ouais. C'est vrai qu'hyper souvent, on pense que, on se dit, ça, on n'y croirait jamais dans un livre, on n'y croirait jamais
c'est
dans un roman.
Rassurant, c'est même rassurant de voir des choses
et
bizarres.
En fait, on
disant,
se dit, c'est vrai. Il y a des choses un peu borderline et ce personnage, il va voir une voyante qui ne lui voit pas d'avenir. Ouais. Et en fait, il sait pas s'il va mourir ou si.
C'est pour 70 balles. C'est pire qu'une mauvaise prédiction, rien du tout, quoi.
Ouais, c'est non, ça. Elle lui prend même pas d'argent, c'est comme s'il était
vide. Il était déjà mort, quoi, presque. Et d'ailleurs, c'est la mort flotte quand même dans beaucoup d'histoires, soit la mort d'une histoire d'amour, mais aussi la mort des personnes. Et en l'occurrence, Jacques Madelin, le narrateur, va à Naples pour retrouver une histoire d'amour. Je vais faire attention au prénom, mais il me semble que c'était Monique de
Monica.
Monica. Voilà.
Par contre, c'est pas Jacques Madelin, c'est
Alain. C'est moins sexe.
Monique te gêne alors que Monica,
je vois Monica Bellucci, tout de suite j'ai envie d'aller à Naples, quoi.
Et Monique Bellucci,
Monique Bellucci,
et en l'occurrence, il arrive au moment d'une catastrophe, d'un tremblement de terre, comme ça peut arriver, comme c'est arrivé à Naples, où il y a eu comme ça presque des rendez-vous entre les catastrophes et cette ville qui subit et qui supporte ces malédictions. Vous dites même d'ailleurs que ces catastrophes, ces malédictions sont non pas vécu comme une punition de Dieu, mais au contraire, ça relance l'amour qu'ils peuvent avoir dans leur croyance et dans leur Dieu.
Oui, c'est un pays très croyant, très catholique, et Naples, c'est une ville extrêmement catholique. Alors évidemment, ça va avec les légendes et les superstitions, et le livre se passe entre le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et dans les années 80, il y a eu ce tremblement de terre de l'Irpinia qui a complètement transformé la région, qui a été une vraie catastrophe et qui a beaucoup implanté aussi la mafia. Et donc, quand il sort de cette histoire d'amour ratée, sans vouloir tout révéler, mais quand il sort du lieu où il comprend que cette femme ne l'aime pas, la terre se met à trembler. Et il a l'impression, en fait, que la ville le comprend et qu'elle souffre avec lui. Et c'est pour ça qu'il reste.
Dans ce roman, moi j'ai pensé aussi au prophète un peu de Khalil Gibran. C'est-à-dire de se dire aussi que dans la lecture, il y a chaque fois comme ça des situations bien particulières dans lesquelles on peut se projeter ou pas, soit en simple observateur, soit en se disant, tiens, comment j'aurais moi aussi réagi si j'avais à payer une maîtresse pour qu'elle quitte la ville. Mais c'est vrai qu'il y a Il y a des projections et il y a quand même des petites conclusions, des petites... Oui. Alors, je sais pas si vous aimez le terme de morale.
Oui, il y a toujours une sorte de morale. Je pense que j'écris aussi en me disant que mes enfants, ça y est, lisent mes livres. Donc
là, ça vous gêne ?
Non, au contraire, mais j'ai l'impression que je leur laisse le peu de sagesse que j'ai acquise dans ma vie. Enfin, il y a cette envie de dire, voilà ce que je crois qui est le monde, voilà ce que je crois qui est bon. Et évidemment, il y a de ça. Et dans chaque histoire, en tout cas, il y a une chute. Je les ai pas écrites par hasard, qui dit quelque chose et qui surtout excuse la plupart des personnages. Je pense que j'aime mes personnages, qu'ils ont énormément de défauts, mais qu'on les comprend à la fin de l'histoire et qu'on a envie de les prendre dans nos bras.
Vous avez déjà surpris vos enfants en train de lire vos livres et de faire « Oh là là,
il y a des fautes
oh là là.
Est-ce que vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes énormément documenté, en tout cas, oui. Parce qu'il y a une part, tout ce que vous racontez sur la mafia, par exemple, comment est née la mafia, je trouve
c'est
ça
génial,
absolument passionnant. Ah oui, c'est absolument passionnant, l'histoire des frères qui vengent le viol de leur sœur.
Oui, mais je pense que quand on écrit sur un pays qui n'est pas le sien, on a tendance à beaucoup se documenter parce que pour être crédible et parce que on est responsable de quelque chose. Donc quand je pense que quand j'écris un livre en France, je l'écris tout simplement. Et là, j'ai commencé à non seulement à me documenter, mais aussi j'étais confinée pendant que j'ai commencé à écrire le livre et donc tout est devenu napolitain à la maison. On mangeait des plats napolitains. Je regardais des films napolitains. Oui, il y avait vraiment cette envie de respecter un pays que j'allais écrire et cette ville particulièrement, c'est presque un pays en soi. Quoi.
Et donc sur la mafia, pardon, au-delà de, la mafia, du travail de documentation, d'abord vous avez croisé des informations pour être sûr de ce que
vous
racontez.
Sur la Camorra surtout, parce que c'est donc il y a Ndrangheta, Camorra et mafia. Donc on peut pas Camorra, ouais, mais c'est prononcé Gomorra en
italien. Ils disent Gomorra. Ah bon, je savais pas.
En italien, Gomorra.
On va demander directement au taulier, Daniel.
Oui, Gomorra. Ndrangheta. Ouais,
Et du coup.
Je vais pas plus loin encore.
Le vieux parrain, quoi.
Et sinon, je peux pas parler.
J'ai des amis.
Je peux pas parler. J'ai des relations.
Mais en fait, c'était compliqué de parler de Naples sans parler de la mafia. Ça fait quand même partie de ça. Mais ce qui est étonnant, c'est que le caractère originel de la mafia, c'était. De redistribution, c'était un truc un peu de Robin des Bois, c'était prendre aux riches et redistribuer aux pauvres. Malheureusement, la nature humaine est ainsi faite que ça.
Ils ont oublié.
Mais c'est vrai qu'au début, ils recrutaient dans les quartiers très populaires, ils demandaient de l'aide aux jeunes gens et ils redistribuaient, donc ils étaient très aimés. Et peu à peu, évidemment, c'est devenu sombre.
Le café suspendu, cette histoire mais extrêmement liée par cette transmission du café suspendu, liée par ce narrateur, un auteur ou un dessinateur qui travaille dans un café. Finalement, on s'en méfie pas. Il est là, il est dans son coin, il est à sa table, il est en train de dessiner ou d'écrire, et donc on peut se mettre à table d'à côté, parler en disant lui, il n'entendra pas. Ben non seulement il écoute, mais il entend, il retient, il en écrit des histoires. Et c'est signé Amanda Sterz, le tout chez Grasset. Voici Alexis Le Rossignol.
Et bonjour à tous.
Bonjour Tatoir.
Ça va les niçoises? Samedi soir, c'était l'Eurovision à la télé. Et j'ai regardé.
Ah.
Je me dis pourquoi ou pas?
Quelle
Allez, je vous le dis, j'avais une gastro.
Quelle vie.
J'ai hésité avec l'Échappée Belle en Ardèche, avec Jérôme Pitorin. Mais je l'avais déjà vu. Il va dans les villages, il parle à des gens, il leur dit « Est-ce qu'on vit bien en Ardèche ?» Les gens répondent « Oh oui, on vit pas mal. En Ardèche, on est moins stressé qu'à Paris. » Après, il va voir des enfants à la sortie d'un collège. Ils parlent tous comme ça. Il dit aux enfants « Pensez-vous rester en Ardèche quand vous serez grand ?» Ils disent « Oh, pour sûr, on est moins stressé qu'à Paris. » Voilà, 52 minutes comme ça, pensif.
Ah, ces enfants de 60 ans.
Je trouvais ça un peu long, quoi. Donc, Eurovision. C'est marrant, l'Eurovision, c'est un genre de taratata. Avec un énorme budget. Avec un énorme budget, mais une direction artistique un peu à chier. Voilà. Et l'Eurovision, c'est censé créer un sentiment d'appartenance européen, mais personnellement, je trouve qu'il n'y a rien qui nous rappelle plus qu'on a vraiment que dalle en commun avec les Moldaves ou les Polonais que l'Eurovision, quoi. En plus, on comprend rien à leur langue, mais apparemment, on est quand même à même de juger leurs chansons, quoi. De toute façon, il est tellement conceptuel, ce concours, que si une chanson a l'air sympa, tu peux être à peu près sûr qu'elle gagnera pas. Une bonne chanson à l'Eurovision, ça conjugue trois choses essentielles. Un, t'as pas envie de l'écouter deux fois. Deux, tu l'écoutes même pas une fois. Et trois, les costumes font mal aux yeux, quoi. C'est vraiment les trois critères déterminants. Et cette année, qui a gagné? L'Ukraine. Et à la loyale, hein, parce que les gens disent qu'ils ont gagné grâce à la guerre. Faux, je l'ai vu en direct, la chanson. Elle répondait parfaitement aux critères de victoire. C'était un mélange entre du hip-hop et des polyphonies corses dans des costumes de berger péruvien. La Fouine et Umuvrini en duo dans le désert du Yuni.
Attends, la flûte.
Ah oui, il y a eu la flûte en plus.
La flûte.
Toi aussi, t'as vu?
Non, j'ai travaillé le lendemain, donc ça fait partie du journal.
Oui, vraiment. Mais il n'y a pas de flûte. Une chanson taillée pour la gagne. C'est pour ça que je trouve ça un peu méprisant de réduire la performance des Ukrainiens à ce qui se passe dans leur pays. Imaginez un enfant qui participe à un concours de déguisement le plus laid pour Halloween. Il gagne, il est content, mais à la fin, on lui dit « C'est parce que tes parents sont morts qu'on a voté pour toi.
Oh »
Le traumatisme. Eh ben, le groupe Kalush Orchestra, toute sa vie, va devoir vivre avec ça. Quoi. Toute sa vie, on va s'en souvenir comme du groupe qui a gagné l'Eurovision parce que son pays était en guerre alors qu'il méritait sa victoire. Après, on le sait que c'est très politique, l'Eurovision. L'année dernière, Brexit, Angleterre, zéro point. Hasard ou coïncidence? En fait, l'Eurovision, c'est de la diplomatie passive-agressive pour dire bon courage à certains pays et vous faites chier à d'autres. Remarque autant que ça serve à ça, puisque l'Eurovision, on s'en fout à peu près. Hein les chansons de l'Eurovision, c'est un peu comme les robes sur les marchés. On se dit ça doit plaire à des gens, mais on ne sait pas à qui. Vous avez déjà vu des femmes acheter des robes sur un marché?
Oui,
jamais. Non, j'ai observé. Jamais j'ai vu de transactions en direct. Les femmes, elles regardent les robes, hein, elles s'approchent, elles passent la main comme ça dessous, elles touchent le tissu. Finalement, elles disent, en fait, non, elles sont pas bien. Je vais acheter des poireaux. Puis dans le futur... L'avantage, c'est que dans le futur, ce sera pratique.
Psychologie féminine.
Et j'observe.
Oh, l'analyse.
Non, je prends des poireaux.
En revanche, dans le futur, ce sera pratique pour les profs d'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 pour l'Ukraine? Ils ont gagné l'Eurovision, oui. Et qu'est-ce qu'ils ont perdu juste avant? Le Donbass. Bravo les enfants. Mais si on fait ça, je propose qu'on le fasse tous les ans. Tous les ans, on fait gagner un pays en guerre. Ça permettra de donner un petit peu de joie de vivre à d'autres pays dont on oublie qu'ils sont en guerre parfois. Le Yémen, par exemple, on n'en parle plus. Invitons le Yémen. 11 ans de guerre, 233 000 morts, 20 millions de personnes sans accès aux soins, 2,3 millions d'enfants touchés par la malnutrition. Ça vaut bien une petite victoire à l'Eurovision. Quoi. La Syrie aussi, 10 ans de guerre, 380 000 morts, 12 millions de réfugiés entassés dans des camps insalubres. Ça vaut bien une petite victoire à l'Eurovision. L'Éthiopie, 16 mois de conflit, 900 000 personnes en détresse alimentaire, le tout aggravé par une sécheresse sans précédent. Bon, c'est pas autant que les deux autres, mais ils pourraient finir deuxième, par exemple. Ou troisième, derrière le Myanmar. Myanmar, 220 000 déplacés, 14 millions de personnes en attente d'aide humanitaire. Il doit bien y avoir des musiciens dans le lot. Et nous, en France, on n'a pas gagné depuis 45 ans. C'est peut-être le moment d'y songer, non? Ou pas? Est-ce qu'on en a besoin? Ou envie? Hein? Pas vraiment. C'est là que tu te rends compte que c'est cool d'avoir une équipe de foot qui tient la route. Allez, bonne journée, messieurs.
Bravo. Merci. Merci, le recyclage. Le café suspendu. On est à Naples, on est en Italie. C'est elle qui l'entend?
Patrick, bravo. Faut attendre le refrain.
C'est-à-dire que là, j'ai pas trop le temps.
Ouais, mais c'est superbe.
Il
c'est, c'est une grande chanteuse. Ça va venir là, attention.
Porno?
Oh non.
Un art.
Le refrain, c'est un silence.
Ça fait Dalida un petit peu.
Bambola. Le café suspendu, Amanda Sterz, amoureuse de ce pays, parce que on ne décrit pas Naples comme ça si on n'est pas amoureuse de l'Italie ou de ce que l'Italie dégage. D'ailleurs, par rapport à la France, nous sommes quand même cousins latins avec l'Italie. Qu'est-ce qu'elle a de plus pour vous? C'est l'exubérance dont vous parliez tout à l'heure, c'est de tout exagérer, aussi bien d'un niveau vocal que
sentimental. Je ne sais pas s'il y a quelque chose en plus, c'est différent, mais Marseille, par exemple, est vraiment la cousine de Naples. Moi qui vis à Marseille quand je suis en France, c'est vraiment quelque chose qui me rappelle Naples. Il y a une sorte de mixité sociale qui fonctionne. Il y a un chaos joyeux. Il y a de la laideur qui se avoisine des palais. Il y a quelque chose de très
proche. Et il y a le football aussi, parce que Maradona
et l'amour du football.
Vous le dites, Naples, c'est une ville schizophrène, sale et sublime. Vous le dites hyper bien, vieille, défigurée et majestueuse, étant la représentation de l'essence humaine. C'est vraiment le tout et son contraire, en fait, comme Marseille.
Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose de très chaotique, mais du coup, on se sent à sa place, puisque chacun trouve quelque chose qui lui ressemble.
Mais en même temps, ce roman aurait pu se passer ailleurs qu'à Naples, mais quand même en Italie? Ou
non,
c'était
parce
vraiment
que
la ville qui parlait d'abord?
D'abord, c'est la ville qui a créé ce café Sospeso. Et même en Italie, il y a quelques cafés qui font ça, mais c'est pas une tradition comme à Naples.
D'ailleurs, donc c'est vraiment Naples, le café qui est le point de départ.
Mais Naples vient de demander à l'UNESCO de classer le café Sospeso en patrimoine immatériel de l'humanité. Ils l'ont demandé il y a 2 semaines et je n'ai rien à voir avec ça, mais merci pour la promo, c'était parfait. C'est tombé pile au bon moment.
Et puis, il y a ce docteur, on parle de voyage, d'immigration, d'accueil de l'étranger, c'est ce qui se passe aussi avec ce docteur. Il ne faut pas oublier que Naples est un port avec des marchandises, qu'il y a donc des voyageurs illégaux qui pénètrent en se cachant dans des cargaisons. C'est l'histoire de ce docteur qui, lui, ne veut s'intéresser et ne fait payer que les patients patients en bonne santé. Mmh. En
ouais, disant, le docteur Chen, voilà. c'est un docteur chinois et la médecine chinoise, c'est de vous traiter au quotidien quand vous allez bien mmh. et de faire en sorte de prévenir les maladies mmh. et que vous restiez en bonne santé. Et donc on les paye pour ça et quand on tombe malade, on les paye pas parce que c'est qu'ils ont échoué. Donc pour lui, les gens qui viennent le voir malade, c'est un drame. Il essaye de faire comprendre aux Napolitains de son quartier, parce qu'il s'installe juste en face de ce café, comment il faut venir se faire soigner quand ils sont pas malades. Et le mec le regarde comme s'il était complètement taré. Et donc, il faut le temps pour arriver à créer ce pont avec eux et à leur faire comprendre comment...
Et il va les protéger du Covid, surtout.
Oui, avec ouais. une... Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais en tout cas, c'est un placebo qui fonctionne. Ça, il leur donne une concoction ancestrale.
Et il devient docteur suspendu. C'est-à-dire que vous employez l'expression suspendu, pas alors, le point de départ et le café, c'est même le lien avec ces sept histoires que vous racontez. Mais il y a le docteur suspendu, le roman suspendu. Enfin, il y a beaucoup de choses suspendues. C'est-à-dire que vous partez de ce principe que on peut finalement laisser à l'autre qui n'a pas les moyens d'avoir quelque chose, c'est ça qu'on peut transmettre comme ça.
Oui, là aussi dans la médecine c'était plus dire en fait c'est quand le docteur suspendu c'est pour leur expliquer on peut prévenir en fait et du coup je vous soignerait à ne pas tomber malade. Ouais.
C'est le problème pris à l'envers.
Ouais. Mmh.
Non, c'est vrai que c'est plus une vanne, en l'occurrence, le docteur suspendu, mais le roman, comme vous le...
Oui, bien sûr, c'est parce que c'est vraiment ce geste qui m'a touchée. Et je me suis demandé pourquoi ça me bouleversait autant et pourquoi je trouvais que c'était si littéraire.
Vous n'êtes pas allé à Naples pour écrire ce roman, vous étiez confiné.
Oui.
Mais est-ce que vous y êtes déjà allé dans votre vie?
Alors, j'y étais allé une fois.
Vous avez fait du scooter là-bas?
Je fais du scooter.
C'est un danger.
C'est un sport.
Ouais, c'est un danger.
Tous les clichés, j'ai fait.
C'est pas un cliché.
J'ai fait. Je suis montée sur une Vespa à Naples et fait. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai fait tous les clichés.
D'accord.
Non, en fait, j'étais allée il y a très longtemps, donc j'ai écrit sur le souvenir que j'avais de Naples, et comme je vous disais, j'ai regardé beaucoup de choses, et ensuite, quand on a été libérés, avant de rendre ma copie à mon éditeur, je suis allée quelques jours à Naples, mais c'était l'hiver, donc c'était bizarre, parce que je suis allée dans un Naples sous la pluie, donc il a fallu qu'un petit effort d'imagination, mais j'ai rajouté des odeurs, des descriptions, j'ai vérifié que ce que j'avais écrit était, en tout cas, pas complètement erroné.
J'ai repensé d'ailleurs, parce que il n'y a pas qu'à Naples, qu'il y a le linge suspendu aux fenêtres, mais c'est vrai que vous dites tout le monde connaît l'intimité et les dessous de ses voisines et de ses voisins, parce que toutes les culottes, les caleçons, les soutifs sont
suspendus. Mais moi, je pensais que c'était pour sécher le linge, le linge suspendu. En fait, c'est pour donner aux gens qui passent, c'est ça?
Il a tellement bien joué. Mais et le César du meilleur acteur est remis à Alexis Rossignol. Nous allons parler de Naples avec.
Du coup, ça l'a coupé dans son élan, quoi.
Ouais, je sais même où je
suis. Non, si tu disais que tout était ouvert et donné à voir à tout le monde, de toute façon, à Naples, en plus, tout le monde parle, vit dans la rue, c'est tout le monde, on entend, on passe devant les fenêtres, c'est ouvert, on entend tout ce qui se passe.
Ça, c'est encore un cliché exact, comme les Vespa. C'est vrai qu'on se balade et j'ai plein de photos avec des rues entières avec le linge qui sèche. Et
non, mais je pensais à l'intimité.
Et oui, et effectivement, on voit la couleur des vêtements du voisin, mais on lui parle pas forcément. Et ce qui s'est passé au moment du confinement, c'est que d'un coup, les gens commençaient à se parler de fenêtre en fenêtre. Il y avait que ça à faire, et donc une sorte de seconde intimité s'est créée. Et en fait, quand on se connaît, on a moins envie, du coup, de laisser sécher nos slips au balcon.
Ouais. On ne se parle pas, en plus, ils crient. Hein. Je suis méditerranéenne.
On va parler avec Stefano Palombari de Naples. Justement, il a vécu à Naples. Il est fils d'une maman napolitaine et il est professeur d'italien. Il a créé le site italiaparis.net. On en parle avec lui après la bande originale d'Amanda Sterz. Vous avez choisi en 90 de réécouter la musique italienne.
Pino D'Angelo.
Arrête, c'est bien Pino D'Angelo.
C'est bien
Pino D'Angelo.
D'Angelo, D'Angelo, pardon.
Delight, groove is in the heart. Cette musique vous renvoie à quel moment de votre vie où la danse,
je me rappelle de Walkman, un Walkman, et je marchais pour aller au lycée. Et c'était, enfin, au collège même, et c'était vraiment mon, voilà, la chanson qui me réveillait le matin.
Il y a des rencontres importantes dans une vie d'auteur, celle de sa prof de français qui organise des petits ateliers d'écriture qui ne sont pas notés, et oui. C'est un moment de révélation.
Alors de révélation, non, parce que je savais que je voulais faire ce ouais. métier, mais pour moi, j'ai été confortée dans l'idée que ouais. je devais écrire. Et pardon, c'est horrible ce que je veux dire, mais que j'écrivais mieux que les autres. Puisque, par exemple, en maths, j'étais vraiment pas bonne. J'étais vraiment nullissime. J'avais bien compris que ça serait pas un destin pour moi, tout ce qui était lié aux chiffres.
Que vous aviez un petit truc à part dans l'écriture.
Mais dans l'écriture, quand d'un coup une classe s'arrêtait pour écouter, puisqu'on lisait à haute voix nos textes, et me demandait plus, c'était, voilà, c'était une première, un premier encouragement. Elle s'appelait Madame Niveau, cette professeure de français.
Vous avez dit que cette prof était belle.
Elle était sublime.
Est-ce que le fait d'être belle était un moteur supplémentaire pour vous?
En tout cas, les garçons étaient tous au premier rang. Non, elle était sublime, et peut-être que c'est mon imaginaire d'enfant, mais je me rappelle de cette belle professeure. Non, je pense que elle dégageait quelque chose d'un peu féerique. Elle ressemblait à une princesse de Walt Disney, quoi.
Et est-ce qu'elle vous a lu?
Alors je pense que oui, mais alors c'est formidable que vous me disiez ça, donc je relance un appel, c'est-à-dire que quand c'était sur votre plateau qu'on en a parlé, donc de Madame Niveauze, on m'a appelé ensuite pour dire, elle a appelé le standard, elle a donné son numéro, sauf que j'étais sur une moto-taxi, j'ai dit ok, genre je note le truc, et j'ai dû noter un mauvais numéro.
On relance un appel à Madame Niveauze.
Et donc c'est pas que j'ai pas voulu la rappeler, c'est que j'ai pas pu, et voilà, ça s'est perdu dans la nature, mais j'adorerais lui reparler, et j'espère qu'elle me lit. Ouais.
Et là, elle se dit en fait. Non, l'Éducation nationale a demandé à ce qu'elle soit inscrite au patrimoine culturel de l'humanité.
Donc on va faire plus simple, un mandat, donner votre numéro de portable à l'antenne.
C'est beaucoup plus simple.
J'aurais essayé. J'aurais essayé. En 2006, vous écoutiez... Pourquoi cette chanson par rapport à 2006, au vieux juif blond?
Non, c'est bizarre parce que cette chanson, je venais d'accoucher de mon deuxième enfant. Et je me rappelle d'avoir eu les deux dans la voiture à l'arrière avec
les deux enfants,
ouais, avec les sièges bébés et tout ça. Ouais. Et cette chanson passe et je me mets à chanter comme une ado, vraiment, genre j'étais à fond dans le truc et en l'espace d'un instant, j'ai oublié que j'étais mère, j'étais comme ça.
C'est
et d'un coup, je me suis dit.
Dans le rétro.
C'est ridicule. Ouais. J'ai vu dans le rétro les deux qui étaient trop petits pour vraiment me dire quelque chose, mais qui m'ont regardé genre.
Donc maman, c'est
pauvre,
ça.
Quelle pauvre fille.
C'est ça, une mère. Ouais.
On est en 2006, Amanda, et vous avez à cette époque-là écrit la pièce Le vieux juif blonde, un texte qui est étudié à Harvard.
Sublime, cette pièce.
Et l'histoire de la genèse de cette pièce, c'est que un soir, en sortant du théâtre, après vous être ennuyé à nouveau, une nouvelle fois, votre partenaire qui était à vos côtés à ce moment-là vous dit, mais pourquoi t'écris pas?
Ouais, il m'a dit,
puisque t'es si forte,
t'as qu'à écrire. Et j'ai dit, en fait, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de très poussiéreux au théâtre. En dehors de Yasmina Reza, il y avait peu d'auteurs contemporains vraiment. 2006, il y a eu une sorte de renouveau récent.
Jouer.
Ouais. Et je me suis mise à écrire ce que moi j'aurais eu envie de voir. Et évidemment, j'étais une jeune femme de 26 ans, donc on écrit différemment, je pense, sans règles, sans m'obliger à des choses. Et du coup, j'ai créé une pièce que jamais j'aurais imaginé ce succès-là, qui était un ovni. Avec une
on
actrice.
Va faire partager, ouais, c'est ça, ouais. Le succès avec Mélanie Thierry, parce que
incroyable, mais que dont personne ne voulait au départ, qui était sur le point d'arrêter ce métier.
Carrément.
Elle avait même plus d'agent. Elle voulait devenir directrice de casting, Mélanie. Et je l'ai croisée dans un ascenseur et
c'est fou.
Et je lui ai dit je vais vous écrire une pièce. Elle s'est dit c'est qui cette nana. Et en fait non, j'ai non seulement insisté pour que ce soit elle, et j'ai bien fait puisque c'était un tout. C'est Jacques Weber à la mise en scène qui a aussi sublime. C'était voilà une rencontre. Contre d'un coup magique entre
tout
un
aligné.
Texte, ouais. Une actrice et un metteur en scène. Et on a commencé dans une toute petite salle de 90 places à 19h et ça a fini à Édouard VII. Voilà. Avec ensuite une grosse distribution. Je crois que c'est un des textes les plus joués pour les jeunes femmes qui présentent le concours au conservatoire.
Ouais. Ce qui pour vous est important dans cette pièce, là aussi, c'est la transmission et la transmission de l'émotion, c'est-à-dire de sentir quand vous étiez Est-ce que vous avez ressenti le trouble qu'il y avait dans la salle au moment où la pièce était jouée, au sein du public?
Honnêtement, je pensais pas dans ces termes encore. C'était encore une écriture très organique et je pense que je parlais de moi beaucoup. La première de la pièce, j'étais pas dans la salle. J'étais dehors avec Jacques Weber. On était en train de boire un whisky dans le petit bar devant.
Tu fais l'angle, ouais.
Devant la salle. Et on essayait d'écouter, mais c'est pas une énorme comédie. Donc, on entendait quelques rires parfois, mais c'était plus une pièce plus émouvante. Même s'il y avait des moments drôles.
Pourtant, quand on est bourré, ça amplifie le son.
On était comme ça en train de se dire, je crois que ça marche. Parce qu'on s'est dit, si on est dans la salle, on va la perturber. Et quand les portes se sont ouvertes et j'ai vu le visage des gens qui me prenaient dans leurs bras alors que je les connaissais pas et tout, je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose de magique qui se passe. Et ça a jamais arrêté. Ouais.
C'est clair. En 2017, vous écoutiez William Scheller. Cette musique, cette chanson dans votre playlist?
Eh ben parce que le titre de cette chanson c'est Madame et qui était le...
Non, c'est Rock and Dollar.
Alors il chante Madame.
Donnez-moi
Madame s'il vous plaît.
Ouais. Ketchup pour moi.
Et c'est devenu la bande. C'est devenu le comment ça s'appelle l'ouverture de mon film en fait, le générique de début du film.
Et c'est votre deuxième long métrage Madame, le rôle principal interprété par Rossi De Palma, écrit pour elle aussi.
Oui.
Même chose, vous écrivez sur mesure.
Ça faisait longtemps avec Rossi, depuis le vieux juif blonde qu'elle avait vu, qu'elle voulait que j'écrive quelque chose pour elle. Et évidemment, j'étais très flattée, mais je lui ai dit je peux pas écrire à la commande, il faut qu'il y ait le rôle qui d'un coup te rencontre. Et quand j'ai eu l'idée de Madame, j'ai tout de suite pensé à elle et j'ai écrit pour elle. Ouais.
Et ça, c'est l'histoire que vous racontez dans Madame, c'est une histoire qui vous touche forcément, en tout cas qui fait écho à une partie de votre adolescence.
Oui, alors c'est un peu dur de l'expliquer en si peu de temps, mais c'est vrai que l'histoire de Madame, c'est le premier grand dîner d'un couple d'Américains à Paris. Il y a une 13e personne qui s'invite à table et c'est pas prévu. Il leur faut donc une 14e personne pour éviter la superstition.
Le 13 à table, ouais.
Et ils demandent à la femme de ménage d'enfiler une robe et de venir s'installer sans dire qui elle est. Sauf que quelqu'un tombe amoureux d'elle. Et c'est ce qui va se passer derrière. Et
le parallèle avec votre...
Le parallèle avec mon adolescence, c'est que... Ouais, mon père... je venais d'un milieu assez simple. Enfin, j'avais de la chance, tout allait bien, mais je venais d'un monde très à gauche, où on savait pas ce que c'était une marque de fringues, où je passais mes vacances chez mes grands-parents, une vie très simple. Et mon père s'est marié avec une femme qui avait pas mal de moyens, et d'un coup je me suis retrouvée dans un monde qui était pas du tout le mien, à passer des vacances à Saint-Tropez à 14 ans, alors que j'étais
à jet set,
vraiment...
quoi.
Ouais, l'inverse de ce dans quoi j'avais été élevée et de ce que j'aimais. Et ce que j'aime toujours, pas aujourd'hui d'ailleurs. Et il avait fallu quand même trouver un moyen d'être accepté par ces gens. Et il y avait cette sensation souvent d'être la femme de ménage à table, ouais, en cachette, quoi, avec des vêtements qui n'étaient pas les miens.
Oui, vous avez eu le temps d'expliquer. Ouais. De bien expliquer. Amanda Sterz, Le Café Suspendu, le nouveau roman chez Grasset se passe en Italie. Et Stefano Palombari, bonjour.
Bonjour.
Et nous a rejoint ce micro. Vous êtes professeur d'italien, traducteur, collaborateur, de Flammarion pour la littérature italienne. Et vous avez créé un site italiaparis.net. Vous avez vécu à Naples. Que diriez-vous de Naples? On a eu une description tout à l'heure faite par Amanda. Comment vous racontez votre Naples?
Bah, j'ai lu le roman d'Amanda Sterz.
C'est gentil.
Et j'ai beaucoup aimé. Hein, et je dois dire qu'on retrouve effectivement un peu les sensations.
Arrêtez avec cet accent de dragueur. C'est facile.
Non, Guitté-toi, laisse-le parler.
Évidemment.
On va couper tous les micros sauf celui de Stéphano.
Toutes les filles vont dire, oh là là, il me fait craquer.
Bah ouais.
Vas-y Stéphano, ça m'énerve.
Mais jaloux.
Mais oui, ça marche moins bien que les Belges.
Évidemment que je suis jaloux.
Ben, j'ai retrouvé un peu toutes les sensations qu'on
peut
trouver.
Tu comprends ce qu'on me dit?
Non, je comprends pas.
Oh, allez-y.
Andiamo.
Bon. Toutes les sensations qu'on peut éprouver quand on se balade dans Naples. Je pense que la chose la plus importante quand on veut comprendre un peu la ville, c'est vraiment de se balader dans la rue à Naples, de rentrer dans les cafés, dans les restaurants, parce que c'est une sorte de spectacle perpétuel.
Et tout est ouvert.
Tout est ouvert.
Les fenêtres, les portes, oui.
Alors, la définition de Naples, on peut dire que la particularité de la ville, c'est vraiment cet effacement de la différence entre, entre la vie privée et la vie publique. Il n'y est pas. Hein. C'est-à-dire, si vous êtes à Naples, le monsieur à côté, il se mêle de votre vie d'une façon très, très simple et très naturelle. C'est pas de la méchanceté, c'est comme ça. Hein. J'ai un copain qui vit à Naples dans le centre, il est napolitain, et à chaque fois qu'il habite dans un cul-de-sac, hein, oui. Et à chaque fois qu'il arrive avec sa voiture, on lui dit « la rue est fermée ». La rue est fermée, on ne peut pas aller. Je dis, oui, mais j'habite ici. Donc, à chaque fois, il y a quelqu'un qui lui dit, la rue est fermée. Et il le sait très bien. Et donc, c'est un peu ça, la vie de Naples.
Il y a ce cliché de la mafia. On en parle également dans le roman. C'est un cliché ou c'est une vérité? Elle existe, cette mafia. On la ressent. Il y a des commerces qui se font racketter.
Oui. La Camorra, la mafia napolitaine, effectivement existe, hein, comme existe la mafia in Sicile ou la Sacra Corona Unita dans les Pouilles, donc il y a différents mafias régionales. Hein, on va dire.
C'est bien organisé, oui.
Oui, c'est très organisé, mais en général, on ne la voit pas. C'est-à-dire, si on est touriste, on va à Naples, on ne la sent pas, parce que quand on l'aperçoit, ça veut dire qu'il y a un problème, hein, un changement de pouvoir.
Quand on est napolitain, on la subit?
On l'a subi, c'est-à-dire on se rend compte, par exemple, que le commerce en bas, il y a eu une bombe, ce qui est arrivé quand je vivais à Naples, il y a eu une bombe au beau milieu de la nuit, à 3h de la nuit, on est réveillé par une déflagration, et c'était un commerce en bas qui peut-être n'avait pas payé le racket. Ouais. Et justement, ce qui est très bien expliqué dans le roman d'Amanda, c'est le tournant qui était le tremblement de terre de 1980. Moi, j'étais à Naples, hein, c'était un 23 novembre 1980, on était en train d'aller dîner et tout a commencé à trembler. Et ça, c'était un tournant, parce que justement, après le tremblement de terre, il y a l'argent qui est arrivé pour la reconstruction et là, il y a eu une guerre de Camorra. Mm. La guerre de Camorra, parce que les différentes familles voulaient s'emparer justement de cet argent qui arrivait à flot.
Et donc Naples n'a pas été reconstruite comme les aides, en tout cas, le permettaient. Et la mafia a gardé
cet argent. Et il y a eu des morts. Hein. C'est pour ça. Mes parents ont quitté Naples en 1982, justement parce que c'était invivable. Il y avait des morts tout le temps. Tous les jours, il y avait des assassinats.
Et on ne peut pas parler de Naples sans Diego.
Pizza,
évidemment, elle est née à Naples. Oui,
elle est née à Naples.
Eh oui.
Le premier. Mais la pizza, comme on la connaît maintenant, est quelque chose d'assez récent. Hein. Mais le mot pizza apparaît dans un livre de recettes napolitaines.
Ça veut dire quelque chose en italien, pizza?
Non, pas c'est seulement à Naples.
D'accord,
c'est, ok. Non, il n'y a pas de signification particulière.
D'accord. Non, moi je voulais parler de Diego Maradona. Ça, c'était un dieu vivant à Naples. Alors, depuis qu'il n'est plus là, est-ce que, d'abord, le stade porte son nom, il est toujours présent dans les mémoires.
Il est toujours présent. Il y a des posters, des murales, des graffitis à son effigie tout le temps. C'est un dieu vivant à Naples.
Sai perché mi batte corazon ho visto Maradona. C'est ça, hein, le stade entier chantait ça.
Il y a aussi beaucoup d'héritiers de Maradona parce qu'il allait avec les Napolitains, ils ne reconnaissaient pas son enfant. Donc il y a beaucoup petit Diego qui se balade à Naples.
Est-ce qu'il, faire une belle équipe.
Est-ce qu'il y a, si on veut revivre Naples, est-ce qu'il y a une adresse à Paris? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont typiquement napolitains à Paris, par exemple?
Alors, il n'y a pas vraiment d'adresse typiquement napolitain à Paris, hein, parce qu'il y a des adresses qui veulent faire un peu napolitain, mais il n'y a pas beaucoup, par exemple, il n'y a pas vraiment de bons restaurants napolitains. Oui, je ne sais pas si je peux le citer, mais il y en a un dans le 5e, il s'appelle Ilazzari, qui est un beau restaurant, mais on retrouve pas l'ambiance hein, napolitaine. C'est quelque chose. Ils se sont
surtout
un peu peut-être francisés, parisianisés. Donc c'est un peu feutré. Un peu...
Je disais que on était cousins de la famille latine, l'Espagne, la France et l'Italie. Est-ce que vous le ressentez, vous qui êtes prof d'italien? Est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui veulent apprendre l'italien? Est-ce que est-ce que c'est facile pour un Français d'apprendre l'italien?
Oui, c'est pas difficile. Il y a des langues beaucoup plus éloignées du français. petit problème de prononciation avec les doubles consonnes, etc. Mais c'est pas compliqué.
Oui, avec l'intonation qui est très importante aussi,
voilà,
la manière dont on la place. Mais vous sentez qu'il y a cet amour permanent entre la France et l'Italie?
Tout à fait. Pas
pour le football, on est d'accord. Mais...
Non, vraiment. Hein, moi, j'enseigne aux étudiants à l'université. Il y a vraiment beaucoup d'inscriptions parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui souhaitent apprendre cette langue et surtout après faire un Erasmus en Italie parce qu'ils ont aussi cette image de l'Italie où c'est un pays où les liens sociaux sont beaucoup plus faciles par rapport à Paris.
Merci beaucoup d'être venu à ce micro, Stefano. Nous allons continuer dans la dernière demi-heure d'évoquer l'Italie et le café suspendu avec Amanda Sterz chez Grasset. Il y aura également Jérémy Crédville et Tanguy Pastureau. De quoi vas-tu nous parler, Tanguy ?
Eh bien, je vais vous parler des chaussettes connectées. Elles peuvent prévenir les crises de démence.
Mais non.
Et oui, Ariel Dombal en a déjà 3 paires.
Ça sera après les infos. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadhafi, Morgan, Jérémy Crédville.
Bonjour.
Allez, bonjour. À Doté, Alexis Le Rossignol, tu dis pas en espagnol ?
Si, bonjour.
En espagnol.
Ah, voilà.
Bon, d'accord. Hola, que tal ? Tanguy Pastureau, Daniel Morin et notre invité Amanda Sterz. Le café suspendu, le nouveau roman, le 16e roman, j'avais du mal à le croire quand j'ai vu que c'était votre 16e roman.
Ouais, moi-même, j'ai pris rendez-vous chez le chirurgien esthétique en lisant ce 16e roman.
Non, mais justement, puisqu'on n'y croit pas, c'est que vous ne les faites pas, comme dirait l'autre. 16e roman avec cette notion de morale, et pas uniquement parce que vos enfants peuvent vous lire maintenant, mais c'est vrai que chaque histoire, comme des contes et légendes, finalement, viennent laisser leurs traces.
Ouais, j'avais envie d'un livre qui fait du bien. J'avais envie de laisser quelque chose qui aide à réfléchir, qui nous accompagne une fois le livre fermé.
Et qui parle de tout, même de la mort, de l'amour évidemment, des trahisons, des superstitions,
de l'amitié beaucoup. C'est une vraie histoire d'amitié du début à la fin entre ce patron de café et mon narrateur. Donc il y a tous les liens humains. C'est un livre sur le lien.
Et puis ce narrateur, l'auteur finalement, l'écrivain, le statut d'écrivain, c'est pas le plus heureux de la bande. Il observe, il écoute, il se nourrit, il vampirise les histoires des autres, mais lui-même ne se construit pas une véritable vie ou une histoire d'amour.
Il y a un côté assez passif, il y a à la fois une empathie pour devenir auteur, il faut aimer les gens, les regarder, les pardonner, et à la fois il faut un peu vivre en retrait de la vie et être observateur, et il faut trouver le bon équilibre. Et c'est vrai que lui, qui ne publie jamais son livre, a du mal à progresser, et donc reste en permanence, c'est aussi une façon de se protéger en dehors de sa vie.
On sait même pas, enfin moi j'ai pas vu à quel point il était plus dessinateur qu'auteur. S'il dessinait plus que ce qu'il écrivait, en tout cas il fait des portraits, il les garde.
En tout cas c'est avec ses portraits qu'il arrive à gagner sa vie. En vendant quelques portraits le soir sur la place, c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Alors que l'écriture, c'est ça la question, est-ce qu'on est écrivain juste quand on écrit ou est-ce qu'on est écrivain quand on publie un livre? Donc en tout cas pour l'instant il est pas auteur, il est quelqu'un qui écrit.
Et travailler dans un café, ça c'est quelque chose qui vous est possible? Au milieu du brouhaha, des gens qui se hèlent et...
Alors, moi j'étais l'aînée, il y avait 7 enfants derrière moi, et donc...
Vous savez ce que c'est que travailler dans le
bruit ? Quand je faisais mes études, je travaillais dans un bruit dingue, et je me suis habituée à ça, et ça m'aide presque à me concentrer.
Oui, courage.
Ouais, il y a du monde,
ouais. Et il y a un peu d'Amanda Sterz dans chaque histoire ?
Non. Non, il y a de moi dans le sentiment général, je pense qu'on a quand on referme le livre, les gens qui me connaissent vont sûrement me reconnaître dans des petites réflexions, mais j'ai l'impression que je me suis vraiment débarrassée de moi-même avec j'ai écrit des choses très personnelles et là j'écris plus de cette façon-là. J'écris vraiment en me disant je vais mettre une couverture autour des épaules de mes lecteurs. J'ai cette envie de vraiment de leur donner quelque chose.
Une couverture de survie ou une couverture
une couverture réconfortante. En cachemire, enfin voyons.
Ah pardon, excusez-moi. J'ai oublié qu'elle avait changé de classe sociale. Amanda Sterz, café suspendu chez Grasset. Voici Tanguy Pastureau.
Récemment, j'ai fait plusieurs découvertes. D'abord, j'ai découvert que dans le 77, il y a une commune qui s'appelle Jouy-sur-Morin. Et c'est un peu dans mon image mentale que j'ai de Daniel. Voilà, j'imagine que Jouy-sur-Morin est un lieu de pèlerinage pour les auditeurs de France Inter. Là-bas, il y a peut-être un buste de Daniel Morin sur lequel des profs à la retraite éjaculent. Oui, c'est écœurant. Ah non, c'est écœurant, mais l'être humain est écœurant. Ainsi, des mecs peuvent faire 9000 km pour aller à Pattaya se taper 10 mineurs. Il doit bien y en avoir qui se font plaisir sur un buste de Daniel. Hein, c'est plus sexy que de finir en statue comme Balzac et se fait faire dessus par des pigeons atteints de touristes. Il y a donc un village qui s'appelle Jouy-sur-Morin. Aucun qui s'appelle Fais-toi plaisir sur Nagui. Et c'est là qu'on voit que la France n'a pas évolué. Le jour où dans le 77, il y aura une commune ayant pour nom Jouy-sur-Babacar. Là, on aura fait un grand pas. Donc, première découverte de l'existence de Jouy-sur-Morin. Deuxième découverte sur Google Maps. Jaloux que je suis de Daniel, j'ai tapé Pastureau. Il n'y a rien. Et avec Tanguy, il y a juste un dolmen dans les Côtes d'Armor qui porte le nom de Tanguy. C'est à cause de ce genre de truc que la moitié de mes fans sont des druides. Hein, quand j'ai su que j'avais le Covid, j'ai reçu 300 fioles contenant des décoctions de fougères. Troisième découverte, j'ai lu ça sur le site Neozone. Rien à voir. Le site Neozone parle d'innovation. Un inventeur vient de créer des chaussettes connectées. Alors, les chaussettes, on connaît, ce sont ces accessoires étranges qu'on met dans la machine à laver par deux. Et à la fin du cycle de lavage, il n'y en a plus qu'une. Quand je pense qu'il y a des pleupleux qui payent 50 balles pour assister à des spectacles de magie, alors qu'ils pourraient juste laver leurs fringues et venir me voir moi sur scène, mais ça me désole. Alors, soyons francs, ça faisait des années qu'il se passait plus rien dans le monde de la chaussette. L'arrivée de la soquette a un temps boosté le marché, puis celle de la mini soquette. Vous voyez les femmes afghanes sous les talibans, bon, niveau de quantité de tissu utilisé, l'évolution donc est inverse. La mode aujourd'hui, c'est d'avoir des soquettes tellement petites qu'on ne les voit plus. Ça fait pareil avec la volonté de changement d'Emmanuel Macron. Au début, il disait je vais tout changer, puis son envie de changer s'est faite plus discrète, puis il a fini par nommer à Matignon Elisabeth Borne, qui inspire autant la nouveauté que la page des slips pour vieux du catalogue d'Axon. Mais là, ça y est, révolution dans la chaussette arrive, la chaussette connectée, créée par un Anglais. Hein, ces gens qui avaient déjà créé la pop, l'habiture et le vomi. En fait, c'est l'idée d'un jeune homme dont l'arrière-grand-mère était atteinte de démence. Elle voyait une participation record aux législatives, Chimène Bardi sortir un album de trash metal et déforme. Donc cette dame âgée, alors, avait des crises d'agressivité. Alors certes, au-delà d'un certain âge, quand quelqu'un est agressif, bon, on se sent moins en danger. Si Jean-Pierre Elkabbach sur CNews n'est pas content de vos réponses à son interview et qu'il vous dit « Viens là, toi et moi dans un octogone », bon, vous pouvez continuer à boire votre café tranquillement. Hein, mais bon, cet Anglais a voulu aider son arrière-grand-mère. On a tous envie d'œuvrer pour le bien de sa famille, à part Xavier Dupont de Ligonnès. Il a donc conçu des chaussettes intelligentes tellement qu'à un moment, il les a retrouvées dans son bac à linge en train d'essayer de communiquer avec un t-shirt. Hein, ces chaussettes sont équipées de capteurs qui analysent trois données. Un, la fréquence cardiaque. Voilà, si on a le cœur qui s'emballe, c'est soit qu'on va mal, soit qu'une femme qui n'a rien demandé à qui que ce soit vient de passer si on est PPDA. Deux, le taux de transpiration. Alors, il existait déjà une façon de le mesurer avec les chaussettes non connectées. C'était à l'odeur des chaussettes. Trois, les mouvements des pieds qui peuvent être dus à une crise de démence. Dans ce cas, si les chaussettes détectent quelque chose d'inhabituel, et comme elles sont intelligentes, elles se mettent en relation avec un soignant. Vous imaginez ? Enfin, elles sont tellement intelligentes qu'au départ, elles appellent Arte. Et au standard, on les bascule sur un soignant franco-allemand. Parce que Arte, c'est un marqueur d'intelligence. Leïla Kedourbedadi a fait Arte, moi c'est 8. Ah bon, quand on joue au Scrap dans le bureau, au lieu de préparer l'émission, les fois où elle dit l'invité d'aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Et ben, elle met sur le plateau le mot iridescent quand moi j'ai beau. Hein, et là, elle me dit non, beau, ça s'écrit pas B-O. J'ai beau crier à les discriminations anti-con, elle en a rien à faire. Alors vous allez me dire, oui, il existe déjà des bracelets qui détectent la démence des seniors. C'est vrai, mais le docteur Stier, l'inventeur des chaussettes, explique qu'ils sont stigmatisants parce qu'ils indiquent que vous êtes malade. Ouais. C'est comme les tatouages représentant des loups. Ils indiquent que suite à la mort de Johnny, vous êtes rabattu sur Jean-Baptiste Guégan. La chaussette, c'est discret. Et le pied, expliquent les médecins, est un excellent indicateur de mesure du stress. La Castex, vous lui enfilez les chaussettes connectées, elle se met en veille d'elle-même. Hein, son projet pour les prochains mois, c'est pêcher à la mouche et boire des spritz. Hein, il est plus détendu que le Dalai Lama s'il était tombé sur le stock de weed de toute la Jamaïque. Donc, avis à nos auditeurs, si vous voyez qu'un de vos grands-parents est en train de sombrer dans la démence, ça arrive, pensez aux chaussettes connectées, elles arrivent sur le marché. Par contre, si l'un de vos grands-parents la bave aux lèvres, animé par une excitation morbide, vous dit, je sais pas si tu connais Daniel Morin, c'est une référence pour notre génération, je suis allé dans le 77, j'étais tendu, je me sens bien mieux, alors pas d'affolement, c'est normal, il vient juste de découvrir l'existence de Jouy-sur-Morin. Je prétends que ça m'a été soufflé par une internaute, l'existence de Jouy-sur-Morin.
Ah, wow. C'est dégueulasse. Elle a des alliés.
Merci à elle, mais c'est dégueulasse.
Bien belle ville en plus.
Je suis pas sûr qu'elle écrit avec les mêmes images. Est-ce que
en spectacle samedi, ouais, à Lille, au théâtre Sébastopol.
Oui. Parfait. Le café est suspendu. Amanda Sterz, vous avez dit dans une interview que certains personnages, en tout cas, faisaient écho à des membres de votre famille, notamment votre grand-mère, c'est ça ?
Oui,
Agrippina.
Agrippina, ouais. Un personnage assez marrant de grand-mère qui est un peu mythomane, on peut dire, qui voit des Napolitains partout. Ma grand-mère, elle voyait des Juifs tunisiens partout. Mais évidemment. Genre, elle me disait, mais bien sûr, Vanessa Paradis, bien sûr qu'elle est de chez nous. Je disais, mais non, pas du tout. Elle me dit, mais si, je sais, j'ai connu son cousin à la Goulette et tout. Cas, tout le monde. tout oui, le monde plus, pour ma grand-mère.
Elle avait des éléments pour.
Ouais, devenait Juif tune, donc je l'ai un peu transformée. Et c'est
juif
maintenant.
Juif pour Juif tunisien.
Voilà.
Oui, pas pour l'argent.
Thune, ouais,
j'avais compris.
Ouais,
ça.
Malheureusement, non.
Dit-elle en pensant à l'héritage. Et jouer comme ça avec ses personnages et je repense à Maradona et sa fameuse main de Dieu, c'est-à-dire ça colle bien finalement un peu tout argentin qu'il était, mais ça colle bien aussi avec les forces divines et cette espèce d'ésotérisme qui règne en permanence à Naples.
Je pense que je pouvais pas écrire sur Naples sans parler de Maradona, surtout qu'on traverse donc depuis les années 80 toute une période. Et ce que Maradona avait en lien avec le café suspendu, ce qui peut paraître bizarre, c'est qu'en fait, quand il est arrivé, Naples c'était vraiment la ville des pouilleux, des mecs du sud que personne ne regardait. Il y avait un gros mépris de la part du nord de l'Italie.
Ils avaient du mal à croire même qu'une star comme
voilà.
lui puisse
et
venir
jouer
à Naples.
Et quand il est arrivé, ouais. il leur a redonné une sorte de fierté d'être napolitain. Et c'était dément. Ça a créé. D'ailleurs, je vous conseille de regarder le documentaire si vous l'avez pas vu sur Maradona, qui est génial.
Ouais, c'est dingue.
Et on se rend compte à quel point il a été important dans l'intégration sociale. Il y avait ça aussi, c'était vraiment cette main tendue de ce type qui est arrivé là-bas et qui lui aussi se sentait jamais à sa place et a été adopté par les Napolitains. C'est une histoire
d'amour. Drôle.
Et on se rend compte du rôle de la mafia aussi, que sans voilà. elle, il n'aurait jamais pu signer à Naples.
C'est ça. Ouais. Et l'enchaînement est bien vu, Daniel, parce que c'est par rapport à la mafia, justement, il y a une scène extrêmement drôle de mafieux qui font une recherche et qui sont presque interrompus dans leur course poursuite par oui. la retransmission à la télé de oui. l'arrivée de Maradona oui. sur le stade. C'est-à-dire oui. que finalement...
En fait, ils sont sauvés par toute la foule. Il y a un type qui s'échappe de cette mafia qui leur court derrière et il y a toute la foule qui se presse pour aller vers le stade ou pour aller dans les cafés du coin pour regarder parce qu'ils n'ont pas tous la télé. Et dans ce fameux café que j'ai décrit, voilà, ce type rentre, il y a une femme qui le voit et une sorte de coup de foudre, elle lui propose... un café, il prend un café suspendu, s'installe avec elle, et d'un coup, il est noyé.
Sans la calculer, finalement. Ouais. Ouais, c'est ça.
Noyé dans la foule des jeux de supporters, et quand les types entrent en demandant est-ce que vous avez vu quelqu'un rentrer, il l'envoie balader, et ça y est, c'est fini, il est sauvé, en fait. Et
elle le sauve.
Elle ouais, le sauve.
Elle sauve. Elle cache sa mallette.
Le café suspendu.
Non, on dit pas tout. C'est de l'amour, il trouve l'amour.
Le café suspendu chez Grasset, le nouveau Amanda Sterz. D'autres événements
oui.
culturels, Leïla.
Si je vous dis, cher connard, je parle
Merci.
De quoi
Ouais,
ben
le Nagui.
Bah, de moi, c'est ça.
Si je dis cher connard, alors.
De toute façon, le Nagui, c'est un match. C'est une pièce.
C'est une lettre ouverte.
C'est pas une pièce.
C'est une lettre ouverte. Une lettre ouverte à
Pardon, c'est pas une lettre ouverte.
C'est une série.
Non plus.
Un film.
C'est un lieu. C'est
un magazine.
Non, ni un magazine, mais on se rapproche.
Mais je sais pas.
C'est un constat.
On va chez Connard.
Un site internet.
Moi, je suis beaucoup allé chez Connard.
Cher connard.
Cher connard. C'est un surnom.
C'est très attendu pour la rentrée.
C'est la suite la de
rentrée.
Nos chers voisins.
C'est un roman.
C'est un livre, absolument. Alors, d'après vous, de qui? C'est une auteure.
Ah oui, c'est Despentes.
Absolument. Ouais. Virginie Despentes, sortie le 17 août chez Grasset. Tout ça pour vous amener à parler de la
littérature. Chez vous, donc c'est la même maison d'édition.
Ouais. Parlons littérature. Est-ce que vous lisez de tout, Amanda Sterz? J'ai lu que vous étiez très très fan d'un joueur de football, Paolo Maldini. Ouais,
comment? Mais quand même, tout le monde a tous mes dossiers, quoi. C'est
sûr.
J'étais folle amoureuse de Paolo Maldini. Quoi.
Bah ouais,
j'étais
trop beau.
Ah ouais.
Bah,
est-ce que vous pourriez, par exemple, je sais pas, lire une bio de Maldini? Est-ce que ce genre de...
Non.
De...
C'est-à-dire que je suis revenue à la raison, quand même. Il y a des choses intéressantes partout. Après, ça dépend de la qualité du livre.
De l'écriture. Ouais. A priori, tous les genres littéraires, vous avez écrit pour les enfants. Ouais. Vous pourriez, je sais pas, un essai,
écrire
ça pourrait
être...
Vous... Pour des vieux. Ouais. Tous les genres sont en tant que lectrice et en tant qu'auteur.
Oui, bien sûr. Ouais. J'ai une curiosité de tous les genres de littérature.
Et qu'est-ce que vous lisez en ce moment qui vous tient en appétit, qui vous rend heureuse?
Là, par exemple, j'étais en signature au Salon du Livre de Limoges. Oui. Et évidemment, j'avais une jeune auteure à côté de moi qui, la pauvre, sort son premier livre. Et évidemment, donc moi, je signe toute la journée. Et puis, elle attendait
personne.
Donc, ouais. j'ai acheté son livre. Elle a écrit un livre. Et c'est vrai que je connais son prénom, c'est Joy. Mais le livre est très beau, donc je vous le conseille. Et il s'appelle... il y a une jaquette dessus qui est Le goût des filles de 13 ans et s'appelle Le goût des garçons, le livre.
D'accord.
Excuse-moi, Joy, d'avoir oublié ton nom de famille, mais j'ai commencé et je l'ai lu dans le train du retour et j'ai été bluffée. C'est vraiment la naissance d'un jeune écrivain.
Joy Majdalami, peut-être.
Voilà.
Voici venir Jérémy Crédville, enfin par en live.
Aujourd'hui. On reçoit une grande écrivaine et moi j'ai toujours rêvé d'écrire un livre avec des mots et tout, une histoire d'amour. Voilà. Mais comme j'ai pas le talent d'Amanda Sterz et que je suis une feignasse, j'en ai fait une chanson. C'est plus court, ça peut rapporter un peu plus. Alors l'amour, faut savoir que c'est pas toujours joli. J'en veux pour preuve l'histoire de Jean-Louis, un ancien alcoolique en rechute qu'on appellera Didier pour préserver son anonymat, et de Jody, une prostituée d'autoroute de 71 ans qui a fait toute l'Europe en restant sur la même aire. Une histoire un peu glauque, chantée par Bernard Lavrier. Ambiance. Je me lève à 13h et je sens le mégot. À côté de mon lit, des déchets de McDo. Je bois le fond d'un verre, c'était un cendrier. En slip dans la cuisine, j'urine dans l'évier.
Yes.
Une passoire, un cloporte, tsunami, évier rempli. Je suis en train de réfléchir, c'est pas chez moi ici. De mémoire, cette porte, ce lit, on est chez Jody. Professionnel de l'amour, à 13€ la bourre.
Où es-tu? Reviens donc dans mes bras, je suis nu. Je fais le poirier pour toi, mal es-tu? Et dans un sale état,
pour
mon cul. On peut y mettre un bras.
Oh non!
Redouane, Alors et Ève, on n'est pas impeccable. Mais malgré l'âge de Jody, elle reste praticable. Une petite pilule bleue, je sors le rétractable. J'avais mis 100€, Jody est incassable. Dans le plumard, sur le parquet, mon slip, je vais pas le ravoir. Je sens un truc au blond, c'est un suppositoire. Je pense à ça, un bar, un strip, un comptoir. Voilà mes vieux démons, ça y est, je veux reboire. Je veux mon kir.
Non Didier, calme-toi.
Je veux mon kir.
T'en as déjà pris 3.
Je veux mon kir.
Tu dégueules dans les draps.
Je veux mon kir.
Enfin pense à ton foie.
Je veux mon kir.
Tu l'as déjà dit ça.
Je veux mon kir.
Non ça c'est de la vodka.
Je veux mon kir.
Un verre d'eau ça ira.
Je veux mon kir.
Tu vois bien qu'il y en a pas.
Je veux mon kir, je veux mon kir, je veux mon kir, je veux mon kir, je veux quoi, je veux mon kir, je veux mon kir, je veux mon kir. C'est répétitif, hein. Je veux mourir, je veux mon kir, sans mon kir, je veux partir, c'est mon kiff, mon plaisir, tu comprends, je veux mon kir.
Didier, arrête.
Écoute-moi.
Mais quoi?
Je veux mon kir, je veux mon kir, je veux mon kir, je veux mon kir, sans quoi quoi, je veux mon kir, je veux mon kir, je veux mon kir.
Sans quoi quoi?
Sans mon quoi, oui. Alors, je viens m'excuser auprès de Bernard Lavillier, de tous les Didier, les Jody, les putes d'autoroute, les autoroutes tout court, de celles et ceux qui abusent du kir, hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Dernier refrain. Je veux mon kir.
Ton Didier, le voilà.
Je veux mon kir.
Oh non.
Tu l'as entre les doigts.
Je veux mon kir.
Mais enfin, t'es con ou quoi?
Je veux mon kir.
Regarde, il est devant toi.
Je veux mon kir.
Et bis repetita.
Je veux mon kir.
Ça va pas bien chez toi.
Je veux mon kir. C'est la dernière.
Je me casse de chez moi.
Je veux mon kir.
La chanson s'arrête là.
Bravo, Jérémy Crédville.
Oh, nom de Dieu. Et Jérémy qui sera à Rochefort le 25 mai, à Nice les 27 et 28 mai, et à l'Olympia le 30 décembre.
Qu'est-ce que c'est, ah ouais, quand même. Qu'est-ce que c'était?
Je vais l'avoir dans la tête toute la journée.
Tu vas chanter à l'Olympia?
Non, pas celle-là, non.
Ah merde, tu vas chanter quand même. Amanda Esther, ce café suspendu chez Grasset, à propos de vos livres, Lettres d'amour sans le dire, est sorti en poche. C'était au mois d'avril dernier. Et puis, à propos de l'Italie, Promise, adaptée de votre roman Les Promesses, a été tournée en Italie?
Promises. Ça s'appelle Les Promesses. Ça se rappellera Les Promesses en français. Et sorti en Italie. Après, on a fait la première au Festival de Rome.
J'ai bien le moment de gêne. Je lui dis ou pas que c'est en anglais, Promises. Promises. OK.
Et oui, on a fait la première du film au Festival de Rome et c'est sorti en Italie. Et maintenant, on attend d'avoir une date de sortie pour le reste.
Parce que le film
monde.
Est entièrement tourné en langue anglaise?
Oui. Film tourné en anglais entre l'Angleterre et l'Italie.
D'accord.
Avec Jean Reno, avec un grand acteur italien qui s'appelle Pier Francesco Favino, que vous avez peut-être vu dans Le Traître, par exemple.
Carrément, oui.
Et Kelly Riley, qui était la jolie rousse de L'Auberge espagnole. Voilà.
Ah, tu vois mieux là, c'est marrant.
C'est trop bien là.
Incroyable. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument. Déjà désolé pour Nico Demorand, Augustin Trapenard, Léa Salamé, enfin bref, tous les poivrons de France Inter, qui sur le modèle du café suspendu ont demandé expressément à ce qu'on lance à la cantine de Radio France le triple calvasus glaçon suspendu. Ça pique, et puis bon, au pire, hein, si ça tombe, ça nettoiera le carrelage. Désolé pour toutes les maîtresses de Jérémy Crêteville qui n'ont pas touché une thune pour quitter la ville. Non, Madame Crêteville est catcheuse, elle n'est pas dans la négociation. Elle cogne, et désolé du coup pour Nagui qui, à l'inverse, a compris hein, que toutes les maîtresses qu'il avait étaient payées par sa femme pour rester et surtout ne pas partir. Elle dit que ça lui fait des vacances, on la comprend. Et désolé enfin pour Monique Belluche, Sophie Laurent, Claudie Cardinan, Monique Vite, Valérie, Bruno Tedesche et toutes les comédiennes italiennes dont les noms ont été salopés par Mister Najoui. Et dire que demain, on reçoit Marco Levi, encore un Napolitain. Attention, Genilo, attention, Aguilo.
Merci, Daniel Omolini. Non, à Jouy,
sur Morino.
Le café suspendu, Amanda Sterce, avec cette idée de transmission et cette idée de partage, aussi dans tous les sens du terme, parce que c'est vraiment ce que l'on ressent au-delà du plaisir de vous lire. Merci Amanda.
Merci beaucoup.
À très vite pour Promises. Passez une bonne journée. On se retrouve donc demain avec Marc Lévy. Tout de suite, voici les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne journée sur Inter.